Lecture dans le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, lire ce texte bien connu, au chapitre 4. Le livre des Proverbes, chapitre 4, et à partir du verset 18. Proverbes chapitre 4, verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées, ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Voilà, donc dans ce chapitre, comme dans tout le livre des Proverbes, c'est la sagesse de Dieu personnifiée qui nous parle, c'est Dieu lui-même, il est le Dieu seul sage, c'est Jésus-Christ qui s'adresse à nous, il a été fait pour nous, sagesse. Vous voyez, l'Écriture nous a été donnée pour que nous puissions être rendus sages à salut, hein, par la foi en Jésus-Christ, de telle sorte que ce livre des Proverbes nous enseigne quant à la sagesse divine. Elle n'a rien à voir avec la sagesse du monde. Avec la sagesse du monde consiste parfois à trouver des expédients et toutes sortes de ruses pour tirer son épingle du jeu. La sagesse de Dieu est une sagesse conforme à sa nature. Elle est droite, elle est juste, elle nous enseigne. Elle enseigne l'intelligence de l'homme pour lui donner du discernement et de la réflexion. Alors il y a cette exhortation dans ce chapitre 4 du livre des Proverbes. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ici, il n'est pas question, bien sûr, du muscle, de la pompe hein, que Dieu a créée dans notre corps et qui bat pour assurer la circulation sanguine. Non, nous devons entendre par le cœur bien le centre de notre être, ce qui en fait l'essence. Voilà, c'est là-haut, dedans de nous, et c'est ce qui dirige tout le reste. Hein. Et c'est pourquoi le livre des Proverbes précise « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ». C'est-à-dire que toutes nos décisions, nos actes, nos pensées vont être déterminées par l'état de notre cœur, hein, notre être intérieur, ce lieu, vous voyez, moteur dans notre être spirituel. Alors pourquoi est-il important de garder notre cœur en tant que chrétien ? Bien parce que c'est l'occasion pour nous de vivre une vie noble, une vie pure, une vie qui honore Dieu, comme nous l'avons entendu ce matin dans une lecture, de marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Nous étions autrefois misérables, conduits par nos pensées, par nos désirs, conduits par les penchants de notre chair, les pulsions, voyez, de notre volonté, misérables. Et le Seigneur, en nous sauvant, non seulement effacé nos péchés, mais il nous donne d'aimer et de pratiquer ce qui lui est agréable, ce qui est bon. Béni soit son nom, hein, pour ce changement opéré en nous. Et puis aussi parce que c'est salutaire, voilà, il faut garder notre cœur plus que toute autre chose, parce que pour ne pas l'avoir fait, bien même des hommes de foi, même des hommes qui avaient bien commencé, ont connu de tristes expériences. On pense à Pierre, ce disciple qui était authentiquement attaché au maître et qui l'a renié 3 fois. On pense à David, cet homme de Dieu remarquable, dont l'Écriture nous rend le témoignage qu'il était un homme selon le cœur de Dieu, et pour n'avoir pas veillé sur son cœur, David a été entraîné dans une série de péchés graves que la parole de Dieu nous révèle, nous relate. Et David a connu la grâce de Dieu, mais cet épisode reste marqué là comme une tache dans sa vie, dans sa marche. Salomon, l'homme qui a écrit ces lignes, l'homme même que l'Esprit de Dieu a utilisé pour nous enseigner, nous communiquer cette sagesse que Dieu lui avait donnée pour lui-même, mais aussi pour paître le peuple d'Israël, Et pour les lecteurs du livre des Proverbes qui nous a été laissé, et à la fin de sa vie, pour n'avoir pas veillé sur son cœur, eh bien, a fini misérablement. Quelle leçon, quelle mise en garde. Et on comprend, voyez, qu'il nous faut veiller sur notre cœur pour ces raisons-là. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Il y a d'un côté le sentier du juste, qui est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'en plein midi. C'est un petit peu le plan que Dieu forme sur nous. Voilà, il désire non seulement nous amener à marcher d'une manière qui lui plaît, mais il s'engage. Voyez, il nous promet, il nous donne en Christ la capacité d'avancer de progrès en progrès. Et puis il y a cette mise en garde aussi, hein, la voix des méchants est comme les ténèbres, n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Et ça, c'est une question de cœur, hein, pour choisir entre ces deux voies. Alors peut-être pourrions-nous partager ce matin quelques directions. Voilà, hein, directions pour nous aider à garder notre cœur. Qu'est-ce qui peut nous aider à le garder, à mettre en pratique cette exhortation? Voilà, garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous le sentons, il y a besoin qu'il soit gardé, ce cœur. Hein, tout nous tire vers le bas. Tout nous tire vers le bas. Et voilà, on sent que pour que notre cœur reste dans un état, voyez, qui plaît à Dieu, dans un état où nous-mêmes serons en sécurité, eh bien, il y a besoin d'exercer sur lui une vigilance constante, une vigilance de chaque instant. Alors, qu'est-ce qui peut nous y aider? La lecture et la méditation de la parole de Dieu. Hein, toujours dans ce chapitre des Proverbes, nous avons vu ce que la sagesse de Dieu nous dit. Quand elle s'adresse à nous, elle nous dit: « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. » Voilà, c'est encore le psalmiste qui disait: « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? » Eh bien, en se dirigeant d'après ta parole. Voilà, c'est elle qui agit au fond de notre cœur. Et ça, c'est une grande source de bénédiction, de laisser la parole de Dieu agir au fond de notre cœur. Elle peut le garder. Quand elle y demeure, elle y produit quelque chose. Vous voyez, ce qui est bon, ce qui garde le cœur, ça ne vient pas de nous. Nous avons besoin que Dieu l'y dépose. Béni soit son nom, il le fait par sa parole. Il le fait par sa parole. Alors pourquoi? Comment? La parole de Dieu, elle agit comme un miroir. Elle nous révèle ce que nous sommes. Elle nous révèle ce que nous sommes. Parfois, elle nous révèle simplement notre faiblesse à travers l'exemple d'hommes ou de femmes de l'Écriture qui ont été faibles. On ne parle pas nécessairement d'une faiblesse coupable. Eh bien, nous voyons l'image de notre cœur et on se reconnaît. Ça nous amène à crier à Dieu: « Seigneur, fortifie-moi. » Parfois, par les exhortations de Dieu, par ses commandements, faisons l'expérience de notre faiblesse. Nous disons: « Seigneur, donne-moi ta grâce. » Hein, c'est le psalmiste qui disait: « Je cours dans la voie de tes commandements parce que tu élargis mon cœur. » Voilà, la parole de Dieu nous amène à dépendre de lui pour déposer en nous ce que nous savons y manquer. Parfois, il est question aussi de notre faiblesse coupable. Vous voyez, la parole de Dieu, par ses exhortations, par les exemples qu'elle nous laisse, elle est là comme une épée à deux tranchants, elle pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointures et moelles, elle juge, voyez, elle révèle les sentiments cachés du cœur, et on fait l'expérience, voyez, que même après 10 ans, même après 20 ans de conversion, il reste en nous, voyez, parfois de l'orgueil, il reste en nous parfois de la ruse, eh oui. Hein, parfois, il reste en nous toutes sortes de désirs coupables. C'est la parole de Dieu qui veut nous les révéler. Et lorsqu'elle nous le révèle, ce n'est pas pour nous écraser, ce n'est pas pour nous humilier, mais c'est pour nous amener à reconnaître les choses. Elle est la vérité. Et voyez, elle nous conduit, cette parole, à venir à Dieu. Voilà ce que je suis, voilà ce qu'il y a en moi. Seigneur, transforme-moi encore. Change ce que je suis. Permets-moi, oui, puisque tu m'y as appelé, à marcher d'une manière digne de la vocation qui m'a été adressée, à ne pas marcher selon la vanité de mes propres pensées, la vanité de mon cœur. Garde-moi de réagir dans telle situation selon ce que je serais tenté de faire si j'écoutais mon cœur naturel. Mais Seigneur, tu m'as sauvé, je suis ton enfant, donne-moi de faire ce qui est bon. Voyez, Dans le livre de Deutéronome, vous savez que quand Dieu parle à Israël, il dira peut-être, sans doute, et même quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donnera en héritage et que tu désireras mettre sur toi un roi comme toutes les autres nations, parce que Dieu avait vu à l'avance le désir qu'Israël aurait d'avoir un roi, bien il dira d'accord, tu mettras un roi, mais il faudra que ce roi, bien il se fasse faire une copie de la loi et qu'il y lise chaque jour. Et pourquoi ? Parce que c'était important, hein, d'avoir un roi qui marche convenablement, non seulement pour lui, mais l'avenir du pays en dépendait. Et Dieu insistait beaucoup sur ce point. Il faudra qu'il lise chaque jour dans ma loi pour qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, et pour que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères. Et c'est la parole de Dieu, vous voyez, qui nous permet aussi qui nous garde de l'orgueil et nous préserve. Béni soit Dieu pour sa parole. Quand nous la lisons, elle nous maintient dans l'humilité et à la fois elle nous enseigne, elle nous fortifie, elle nous encourage. Le psalmiste bénissait le Seigneur, sa parole, ses commandements, ses préceptes. Il disait, il me rend plus sage que mes adversaires. Il me rend plus sage que les vieillards. Et est-ce que ce qui nous manque, la parole de Dieu nous le communique. La parole de Dieu nous révèle non seulement ce que nous sommes, mais elle nous révèle aussi la personne bénie de Dieu. Elle nous parle de la personne de Jésus-Christ, de son amour, à travers la manière dont, dans les jours de sa chair, il se comporte, il parle, il agit. Il est toujours le même pour nous. Et ayant fait l'expérience de notre misère, eh bien, la parole de Dieu amène nos yeux à se tourner vers sa personne glorieuse. Et c'est en lui, par la foi en lui, que nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance. Pour être secouru, obtenir miséricorde, trouver grâce, être secouru dans tous nos besoins, dit l'Épître aux Hébreux. Voilà, ce qui manque ne peut être compté quand on regarde à nous-mêmes, mais en Christ nous avons tout pleinement. Elle nous parle également, cette parole, elle nous révèle ce que nous sommes naturellement, mais elle nous révèle ce que nous sommes devenus en Christ. Voilà, c'est pourquoi Jean pourra s'adresser à ses auditeurs en disant « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que la parole de Dieu demeure en vous et que vous êtes forts et que vous avez vaincu le mal. » Et Jean chantait qu'il s'adressait à des jeunes gens qui, comme aujourd'hui, avaient à faire face à toutes sortes de difficultés, toutes sortes de tentations. Et comme il s'agissait de jeunes gens et de jeunes filles qui avaient reçu le Seigneur, bien Jean leur dit « Voilà, il faut que vous gardiez présent à l'esprit le fait que vous êtes forts, non pas par votre propre force, mais vous êtes forts en Christ. Que vous demeuriez conscient que la parole de Dieu demeure en vous et que dans les sollicitations qui vont se présenter, lorsque vous allez vous trouver là, seul, dans le monde, il y a toutes sortes de dangers, toutes sortes de sollicitations, toutes sortes de difficultés. Bien, n'oubliez pas que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. On pense à Néhémie, cet homme vaillant dont Dieu s'est servi, ce gouverneur, pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Dieu l'avait appelé à cela. Et ça ne s'est pas fait tout seul. Néhémie, vous le savez, était en butte à toutes sortes d'oppositions, toutes sortes de railleries, toutes sortes de tentatives d'intimidation. Et puis un jour, il y a cet homme, ce faux prophète, Shemaïja, qui avait organisé tout un scénario. Il vient vers lui, lui dit, mais voilà qu'on cherche à se tuer. Et c'était en réalité une machination. Le but de Shemaïja était d'amener Néhémie à rentrer dans le temple la nuit, dans la partie du temple qui était réservée aux sacrificateurs. Et voyez, s'il était parvenu à discréditer Néhémie, voyez, s'il était parvenu à amener Néhémie à transgresser ainsi la loi, eh bien il y aurait eu une occasion de l'accuser. C'en était fini de Néhémie, fini de sa mission. Les adversaires auraient pu dire, voyez, cet homme qui prétend vous conduire dans ce qui est bien, lui-même, il transgresse la loi. Et Néhémie, bien sûr, il écoute cette parole. Et on imagine que son cœur a éprouvé une certaine crainte. Il y a des nouvelles parfois qui nous amènent à vaciller intérieurement. Il y a des choses qu'on entend, il y a des choses qu'on vit, tout en étant chrétien, ça nous affecte. Mais on entend Néhémie dire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais un homme comme moi prendre la fuite? Ah, mais tu n'y penses pas. Et il va fermer la porte, vous voyez, ce que Shemaïja lui propose, parce qu'il sait qu'il n'est pas question pour lui d'entrer dans le temple. Et puis un homme comme moi, je ne sais pas que Néhémie se pensait supérieur, hein, mais Néhémie a conscience de la position dans laquelle Dieu l'a établi, et béni soit son nom, nous aussi. Hein, en Christ, Dieu nous a établis dans une position, et il y a des offres, il y a des sollicitations qui nous sont parfois faites dans le monde quand elles comportent un danger, ou que, de manière claire, nous percevons que les accepter nous amène à tomber dans le mal, voyez, malgré tous les raisonnements hein, que le diable peut échafauder, qui peuvent se dérouler là dans notre tête, eh bien nous disons pas question. Pas question. Un homme comme moi, accepter cette offre, ça va pas. Hein? Jamais de la vie, a dit Néhémie. Et ça, c'est bon. Et qu'est-ce qui nous en rend capable? C'est la parole de Dieu, c'est notre position dans le Seigneur. Nous ne sommes plus, voyez, esclaves de nos penchants, nous ne sommes plus esclaves de nos pensées, nous ne sommes plus du monde, nous n'appartenons plus à l'adversaire de notre âme, mais au Seigneur et en lui. Béni soit Dieu, nous trouvons la force de faire et de pratiquer ce qui est bon. Donc la lecture, la méditation de la parole de Dieu, elle amène tout cela en nous. Puis, je dirais aussi le fait de veiller sur nos regards. Veiller sur nos regards. Alors, ce qui est intéressant dans ce texte des Proverbes, c'est que lorsqu'il est question du cœur, vous relirez les versets qui suivent, on voit que tous les membres de l'homme dépendent du cœur. Quand le cœur de ce que nous sommes, le cœur de notre être est touché, eh bien ça se répercute sur l'ensemble de nos membres. Les yeux, la bouche, les pieds, c'est-à-dire ce que nous regardons, ce que nous disons, les endroits où nous allons, la course que nous suivons. Mais c'est vrai aussi, hein, réciproquement, que ce que nous contemplons, l'endroit où nous arrêtons nos yeux, ça affecte aussi notre cœur. Alors, je propose de lire ce texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 19. Évangile de Matthieu, chapitre 6, le verset 19. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 19, c'est un passage du Sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 6, verset 19. Le Seigneur dit ici, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton cœur est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Alors ici, c'est un enseignement que le Seigneur apporte dans le Sermon sur la montagne sur l'attrait des richesses, sur l'avarice. Et il nous dit, voilà, ne recherchez pas des trésors sur la terre, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, parce qu'il dure un temps. Hein, c'est ce que le maître veut nous faire comprendre quand il dit qu'il y a la rouille, la maladie qui peut s'attaquer au métal, ou encore des voleurs qui percent et qui dérobent. Hein, c'est vrai, ça. On peut tout perdre parce qu'on nous le vole. Les trésors amassés sur la terre sont toujours incertains. Et même s'il devait demeurer jusqu'au bout, eh bien, il faudra bien les laisser un jour. Et le maître attire notre attention sur le fait que les vraies richesses, celles qui demeurent toujours, éternellement, ce sont les richesses amassées dans le ciel. Voilà la bonté, ce que Dieu donne dès maintenant. Et juste après, le maître dit, voilà, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et c'est là qu'il va parler de l'œil, lampe du corps, en disant, l'œil est la lampe du corps. Si l'œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Si l'œil est en mauvais état, si la lumière qui est en toi est ténèbre, tout ton être sera ténèbre. Ce qu'il nous fait comprendre, c'est que si nous portons nos regards habituellement sur les richesses de ce monde, si nos regards sont perpétuellement portés pour contempler, pour réfléchir, pour considérer ce que le monde nous apporte, inévitablement, notre cœur va s'en ressentir. L'œil est la lampe du corps. La lumière qui va rentrer en nous sera ténèbre. Et il nous dit, en revanche, vous voyez, si votre œil est en bon état, si vous le portez sur des choses qui vous éclairent, alors tout le cœur va être éclairé. Tout le cœur va être éclairé. Alors, sur quoi il faut éviter de porter son regard ? Sur l'argent, dans ce sens-là, ce n'est pas l'argent qui en soi est mauvais, c'est l'amour de l'argent. Les biens du monde, j'en parlerai de la convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Voilà, Seigneur, quand ça se manifeste en moi, tout ça, bien, lave-moi et avec ta grâce, aide-moi à en détourner les yeux. Voyez le désir de briller, le désir de l'apparence, tout ça, on l'a expérimenté. Seigneur, disait le psalmiste, détourne ma vue, détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Et puis il y a ce beau texte qui nous dit, nous qui contemplons le Seigneur, comme dans un miroir. Alors on ne le voit pas tel qu'il est. On en comprend un peu quelque chose aujourd'hui, mais béni soit Dieu, on en comprend quelque chose. Il s'est révélé à nous. Nous qui contemplons le Seigneur comme dans un miroir, bien nous sommes transformés. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Le regarder nous purifie. De regarder nous purifie. Voilà, ce qui est en nous, bien le Seigneur nous en lave, il nous en délivre, il nous en débarrasse, et il dépose en nous ce qui vient de lui. Il crée en nous son image. Une troisième chose, la persévérance dans la prière. Donc la lecture de la parole de Dieu, le fait de porter nos yeux sur ce qui est bon, d'éviter de les attarder sur ce qui est condamnable. La persévérance dans la prière. Le fait de prier, bien c'est pour nous aussi l'occasion d'entendre la voix de Dieu. Bien sûr, ça fait du bien de dire à Dieu ce qui pèse sur notre cœur parfois. David disait, je raconte mes voix et tu m'exauces. On pense à Anne, nous avons parlé d'Anne, cette femme qui a répandu son cœur devant Dieu silencieusement, mais elle a déposé ce poids là, qui l'accablait. C'est bon parfois de faire ça. On peut aussi intercéder avec force. Voilà, que ce soit chez nous ou bien quand on se rassemble, ça fait du bien d'élever sa voix. Parfois on sent que le Seigneur nous y engage, nous y encourage. Le simple fait de prier, ça nous fait du bien. Mais c'est aussi l'occasion d'entendre la voix de Dieu. D'entendre la voix de Dieu. Alors parfois, une voix forte, parfois il nous parle comme à Élie, dans un murmure doux et léger. Voilà, ça nous fait du bien, on le sent. On le sent, on sent qu'il nous parle. Et ça nous fortifie. On pense à Moïse. Vous voyez, quand il était dans la tente d'assignation, il était là avec le Seigneur et il y a quelque chose qui se passait. Quelque chose qui se passait, puisque quand il sortait de la tente, la peau de son visage rayonnait. Dieu avait communiqué à Moïse quelque chose du ciel, là, c'est quelque chose de sa gloire. Et nous aussi, quand on s'approche de Dieu, il nous communique quelque chose. Il nous communique quelque chose. Prier, c'est entrer dans les sanctuaires de Dieu. Entrer dans les sanctuaires de Dieu. D'ailleurs, si c'est possible pour nous, bien c'est parce qu'au moyen du sang de Jésus, nous avons, est-il écrit, un libre accès à sa présence, un libre accès dans le sanctuaire. Et là, dans le sanctuaire de Dieu, dans la présence de Dieu, tout change. Parfois, des choses qu'on voyait là comme des montagnes, se disaient, ça, j'y arriverai jamais, c'est trop difficile, j'en peux plus. Et bien, ça change. On les voit différemment. On les voit différemment. Le psalmiste, Asaph, voilà, il passait par un moment de découragement, d'abattement. Il disait, voilà, les méchants, regarde autour de moi ceux qui sont impies. Ils ne font aucun cas de Dieu. Et tout semble bien fonctionner pour eux. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Ils sont chargés dans bon point. Et moi, je me suis engagé. J'essaie de vivre une vie chrétienne sérieuse. J'essaye de m'appliquer, j'essaie de faire le bien, j'essaie de porter un bon témoignage là où j'habite. Et tous les matins, mon châtiment est là. Hein? Est-ce que c'est en vain? Voilà, Asaph pose la question. Est-ce que c'est en vain que j'ai purifié mon cœur? Et là, quand même, il est repris, Asaph. Hein? Il dit, mais non. Si je parlais ainsi, je trahirais la race de tes enfants. Et là, quelque chose est en train de se passer en lui. Asaph prend conscience, là, à la lumière de sa propre expérience, de ses propres paroles, qu'il faut faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a cherché Dieu. Il a cherché Dieu et il va dire, jusqu'à ce que je pénètre dans les sanctuaires de Dieu. Et là, il dira, c'est lui qui le dit. Hein? Et quand je maigrissais, que j'étais percé dans les entrailles, il y avait de l'amertume en moi. C'est vrai, il y avait de l'amertume, il le reconnaît. Et il dira, j'étais stupide et sans intelligence. Voilà, c'est lui qui porte le jugement sur lui. Hein, ça lui apparaît, là, en pleine lumière. Il le reconnaît. C'est bon, parfois, de reconnaître ce que nous avons été, ce que nos réactions ont traduit. Voilà, Seigneur, j'ai été un insensé. Mais Asaph va dire, mais tu m'as saisi par la main droite. Tu m'as saisi par la main droite. Béni soit Dieu pour sa grâce. Hein. Il est le bon berger. Combien de fois ça nous est arrivé, ça, hein? On se sentait, nous aussi, percés dans les entrailles. Puis, voilà, c'est Dieu qui nous a saisis. Alors, tu m'as saisi par la main droite, tu me conduiras par ton conseil. Oui, Dieu n'en a pas fini avec nous, il veut nous conduire par sa parole. Mon frère, toi qui passes par un moment semblable à celui d'Asaph, le Seigneur veut te saisir par la main ce matin. Il me conduira par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Vous voyez, son espérance est renouvelée. Or, Jean dit, celui qui a cette espérance en lui se purifie comme Dieu lui-même est pur. Quel autre ai-je au ciel que toi, sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Amen. Ma chair et mon cœur, dit Asaph, pourraient se consumer. Dieu restera le rocher de mon cœur et mon partage. La prière, ça nous donne de garder notre cœur. Et puis, une dernière chose, c'est la persévérance dans l'effort. Persévérance dans l'effort. Une analogie nous apparaît avec ce qui existe sur le plan physique. Vous savez que pour avoir un cœur sain, là on parle du muscle, il faut garder un certain exercice physique. Les médecins vous le diront. Et c'est Paul, voyez, qui écrira à Timothée, exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. Et c'est vrai que, voyez, c'est la parole de Dieu nous nourrit, la présence de Dieu fait du bien à notre cœur, un don spirituel est susceptible de parler à notre cœur, de l'exhorter, la communion fraternelle aussi. Mais rien ne peut remplacer aussi, voyez, l'effort, notre activité en tant que chrétien. Allez, on lit un dernier texte, Philippiens chapitre 2, verset 12. Philippiens chapitre 2, verset 12. Chapitre aux Philippiens, chapitre 2, verset 12. Voilà, Paul, depuis sa prison, écrit aux Philippiens qui lui ont fait parvenir ce don qu'il a tant touché. Et il leur dit ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, les enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Portant la parole de vie, je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Pour la conscience que ces Philippiens qu'il a laissés, qui ont leur lutte et leur combat, il est loin d'eux, il est en prison, il ne peut pas prêcher l'évangile devant eux comme il l'a fait pendant des années, mais il les exhorte, parce qu'il est conscient que c'est Dieu qui produit en eux le vouloir et le faire, que Dieu est vivant, hein, que par son esprit, Dieu vit au milieu de son peuple, il vit dans son Église, il a fait de nous, béni soit son nom, le temple du Saint-Esprit, et il va dire aux Philippiens, voilà, Dieu produit en vous le vouloir le faire. Mais il les exhorte en disant, bien maintenant, travaillez. Travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, parce que c'est sérieux. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Et puis sans murmurer, sans murmure d'hésitation, hein, même au milieu d'un monde qui parfois aimerait bien nous pousser un peu à bout. Non, comportez-vous comme portant la parole de vie. Et le fait, voilà, on arrive au terme de cette méditation, le fait de nous maintenir dans l'activité, dans l'effort, bien là aussi ça entretient notre cœur. Vous voyez, notre cœur parfois, c'est bon de méditer la parole de Dieu, mais vous voyez, il ne faut pas que ça en reste là, il faut qu'elle produise cette parole, des actes, il faut qu'elle se traduise en action pratique, et parfois on sent bien qu'il y a cette résistance, on sent parfois ces murmures, ces hésitations dont il est question. Mais Seigneur, que ta parole demeure en moi, qu'elle me pousse à agir. Vous voyez, certains enseignements, certains livres ont parfois enseigné que voilà, il faut laisser Dieu vivre sa vie en nous. L'Écriture nous exhorte à agir. Faire le choix de livrer nos membres comme des serviteurs, des esclaves de ce qui est juste. Que le Seigneur nous y conduise, que le Seigneur nous y encourage, qu'il nous bénisse sur ce chemin pour que notre cœur puisse être conservé, qu'à son tour, il produise toutes sortes de bons fruits dans tout notre être. Se recueille quelques instants et on peut rendre grâce au Seigneur.